l'Empire Inca, la première superpuissance des Amériques, et sa fabuleuse capitale, Cusco.
La taille et le prestige de l'Empire Inca n'avaient pas d'égal dans le Nouveau Monde.
Il y a près de 600 ans, cette civilisation a connu une formidable expansion. En moins d'un siècle, elle a bâti le plus grand empire de l'Amérique précolombienne.
Comme toutes les cultures, les Incas aspiraient à l'éternité.
Mais cet empire s'est effondré sous le choc de la conquête espagnole. Une poignée de mercenaires a eu raison de dizaines de milliers de soldats incas. Les découvertes archéologiques permettent de mieux comprendre l'incroyable destin de cette civilisation.
Cusco était une cité magnifique, sans doute la plus belle d'Amérique du Sud à cette époque.
La culture inca a bâti un fabuleux empire avant de disparaître de la surface de la Terre.
Des entailles, des os brisés, un degré de violence inédit.
L'expansion inca commence au début du 15e siècle. Le territoire d'origine de cette tribu se trouve dans les Andes, dans le sud du Pérou actuel. À son apogée, l'empire s'étend sur près d'un million de kilomètres carrés et 6 pays actuels d'Amérique du Sud. Il comprend des déserts, des montagnes et des monuments extraordinaires. Mais il y a près de 6 siècles, cette puissante civilisation péruvienne s'effondre, victime d'une troupe de soldats européens.
C'était un navire plein de soldats espagnols qui n'avaient rien à perdre.
L'ascension et la chute de la civilisation inca restent auréolées de mystère. Comment cet empire a-t-il pu se développer si rapidement et s'effondrer si facilement? La réponse se trouve en partie ici, à Cusco, l'étonnante capitale des Incas. La ville moderne recouvre un labyrinthe de pâtés de maisons. C'est le cœur de la métropole inca, les vestiges d'un réseau urbain complexe. Il y a 5 siècles, Cusco était l'une des plus grandes villes d'Amérique du Sud. Elle abritait des dizaines de milliers d'habitants. C'était le centre névralgique de l'Empire Inca. Cusco était si riche que ses temples étaient couverts d'or. Pourtant, elle n'a pas résisté à l'assaut des troupes menées par les Espagnols. Comment ce puissant empire s'est-il effondré? Sabine Highland nous guide à travers la trame complexe de cette société. L'empire était une mosaïque de peuples, de langues et de cultures. En réalité, il comptait très peu de vrais Incas. Une tribu de 40 000 personnes contrôlait un empire de plus de 10 millions d'habitants. Il s'agissait de peuples alliés ou soumis par les armes. Au sommet de cette pyramide se trouvait un seul homme.
L'empire inca était divin, sacré. Les sujets ordinaires n'avaient pas le droit de le regarder en face.
Selon la légende, les premiers incas seraient nés du soleil. Ce clan serait un jour sorti d'une grotte au cœur de la montagne. Le soleil leur avait commandé de s'établir là où leur bâton d'or s'enfoncerait dans la terre. C'est ainsi qu'ils auraient fondé Cusco. Peu à peu, la cité sacrée s'est développée. Elle est devenue le centre du pouvoir inca.
Le roi était nommé Cusco, le nombril de la terre, parce qu'il pensait que la ville était le centre de l'univers.
Cette tribu a bâti un vaste empire en moins d'un siècle. Comment a-t-elle fait ? Cet ancien couvent espagnol nous apporte un élément de réponse. Il a été bâti sur les ruines du Coricancha, le temple du soleil. Le sanctuaire était fait de pierres taillées parfaitement ajustées. Les pièces étaient orientées sur les solstices d'été et d'hiver. La salle du soleil abritait les momies des anciens souverains incas. Les corps étaient enveloppés dans des toiles de la meilleure qualité. À leurs pieds, on avait déposé du vin et des objets d'argent et d'or. Les anciens souverains étaient divinisés. Ce culte cimentait l'Empire Inca. Jusque-là, les tribus des Andes étaient en état de guerre permanente. Les Incas ont imposé leur pouvoir fédérateur et apporté la stabilité et la sécurité. En cas de sécheresse ou d'épidémie, les Incas considéraient de leur devoir de nourrir et de soutenir les sujets fidèles. Les chefs locaux pouvaient être reconnus comme citoyens d'honneur de l'Empire. Ils devenaient Incas par privilège. Les souverains de Cusco leur octroyaient des terres et un statut prestigieux. Mais cette domination n'était pas du goût de tout le monde. Les rebelles étaient écrasés par une puissance militaire impitoyable.
Cette petite ethnie a réussi à dominer une vaste région accidentée. C'est la preuve d'une ambition hors norme. Les Incas étaient des bâtisseurs d'empire. Ils ne se sont pas laissés intimider par les obstacles.
Comment cette modeste tribu est-elle devenue une superpuissance militaire ? Peter Frost a écrit de nombreux livres sur les Incas et explore la région depuis plus de 30 ans. Il connaît bien les techniques de combat de l'époque. Le musée de l'or du Pérou, à Lima, abrite de très nombreuses armes Incas. Elles permettent d'imaginer le déroulement des combats à cette période.
Cette arme est un mélange de massue et d'armes de jet. Voici comment on l'utilisait. Cette lanière permettait de l'attacher au poignet. On tenait la corde de cette manière. Et à l'autre bout, on a la masse. On imagine la puissance avec laquelle on pouvait frapper la tête de l'ennemi.
Les armes de la période incaïque paraissent assez simples. Elles ont pourtant permis de construire un empire. Les Incas utilisaient aussi des bolas. Les bolas permettaient d'entraver les jambes de l'ennemi. On pouvait donc immobiliser l'adversaire à distance. Mais le combat rapproché était encore plus violent. La puissance de ces armes est impressionnante. Mais les Incas n'étaient pas les seuls à les utiliser. Leurs ennemis disposaient du même arsenal. Alors comment ont-ils pu enchaîner les victoires ?
Les Incas déployaient leurs troupes de façon plus efficace. Ils étaient plus précis et mieux coordonnés. C'est leur discipline et leur sens de l'organisation qui leur a permis de remporter toutes ces batailles.
La chaîne de commandement devait être parfaitement huilée. On engageait le combat à distance et on le terminait par un corps à corps. La supériorité des Incas venait de leur grande préparation et de leur nombre. Cusco jouait un rôle clé dans ses victoires. Les Incas y avaient bâti une académie militaire pour former des bataillons d'élite. On y entraînait des soldats loyaux, entièrement dévoués à l'empereur.
Ces hommes étaient prêts et même impatients de se battre pour l'Empire. Ça leur donnait beaucoup de prestige d'être un guerrier victorieux.
Les Incas disposaient d'une armée bien entraînée et surtout très nombreuse. Cette puissance leur conférait un atout déterminant, le pouvoir d'intimidation. La frayeur qu'ils suscitaient n'a cessé d'augmenter à mesure que l'Empire s'étendait. Avant la bataille, le roi offrait une chance à l'ennemi de se rendre. En échange, le vaincu devait payer un tribut à échéance fixe. Si l'adversaire refusait, les soldats incas projetaient d'abord une pluie de pierres. Ensuite, des troupes armées de massues à pointe et de gourdins fondaient sur l'ennemi.
Au fil des décennies, leur armée s'est développée et l'empire s'est étendu. Ils sont devenus une force irrésistible, la plus grande armée d'Amérique du Sud.
À partir du début des années 1430, les Incas vont s'étendre à un rythme effréné. En un peu moins d'un siècle, ils vont conquérir en moyenne 11 000 km² par an. Mais en quittant les Andes, ils vont s'opposer à de grandes civilisations rivales. La survie de l'Empire dépendait de sa capacité à prévenir et à réprimer les révoltes. Mais comment faire sur un territoire de près d'un million de km²?
Pour les Incas, il était crucial d'arriver rapidement sur les lieux. Il fallait mater les révoltes rapidement pour éviter qu'elles ne s'étendent.
Sabine Island nous emmène sur les traces du formidable système de communication inca. Pour contrôler cet immense empire, il fallait pouvoir circuler rapidement à travers des régions à la géographie très variée. Un véritable exploit.
On a des défilés qui descendent vers des vallées entourées de très hautes falaises. On a des rivières à franchir, et puis sur chaque rive, un terrain très accidenté. On a la forêt vierge d'un côté et l'un des déserts les plus secs au monde de l'autre.
Pour commencer, il fallait donc construire un vaste réseau de communication, le Capac-Nian.
Selon les historiens, ce réseau est le plus grand qui ait jamais existé au monde. Il a pratiquement entièrement disparu. Mais on continue d'en retrouver des sections.
Le Capac-Nian était structuré autour de deux axes longs de 6000 km. Des routes transversales reliaient cette double artère principale. Le réseau était parfaitement adapté à ce terrain accidenté. Des escaliers en pierre permettaient de franchir les pentes abruptes des Andes. Des ponts suspendus enjambaient les rivières et les défilés. Certains mesuraient 45 mètres. Dans le désert, les routes étaient protégées du sable par des petits murets. Ce chemin reliait toutes les régions de l'Empire à la capitale. Mais l'infrastructure ne suffisait pas. Le génie des Incas est d'avoir su l'exploiter efficacement. La route était jalonnée de relais de poste. Dans chacun d'eux, deux ou trois courriers se tenaient prêts à partir. Ces athlètes couraient d'un poste à l'autre. Un message pouvait ainsi franchir plus de 240 km par jour. Il fallait moins de 17 jours pour communiquer d'un bout à l'autre de l'Empire. Les relais, ou tambos, abritaient aussi des garnisons. Ces petits complexes étaient disposés tous les 20 km. Ce système de routes et de garnisons maillait l'ensemble du territoire. Il couvre la totalité des Andes centrales, depuis les jungles de l'Est aux plaines côtières de l'Ouest. Cette expansion fulgurante cache une étonnante réalité. Les Incas sont infiniment moins nombreux que leurs sujets.
Ils ont dû trouver le moyen de montrer leur supériorité. Contrôler la population, c'est toujours un défi. Et plus le territoire est étendu, plus c'est difficile.
40 000 Incas régnaient sur un empire de plus de 10 millions de personnes. Comment sont-ils parvenus à maintenir leur domination? L'architecture de Cusco témoigne d'un autre atout majeur de cette civilisation. Les Incas étaient d'excellents bâtisseurs. La capitale abrite les vestiges d'un palais, le Cusicancha. Il est composé de grands édifices qui bordent une vaste cour carrée. Ce même schéma est reproduit à travers toute la ville. Les unités d'habitation sont reliées par des rues. Elles partagent un système d'évacuation des eaux, comme dans nos villes modernes. Cette architecture a contribué à asseoir la domination des Incas sur leurs vassaux. L'aménagement de la ville reflétait à la fois l'identité et la hiérarchie de la culture Inca.
Les Romains avaient mis en place un système similaire. L'architecture permet d'imposer sa volonté sur un grand empire, surtout quand on détruit la façon de faire locale pour imposer la sienne.
Le Cusicancha est un parfait exemple de l'urbanisme inca. Ses caractéristiques se retrouvent dans de nombreuses villes conquises. Les canchas, ou parcelles d'habitation, témoignent aussi de l'ingéniosité technique des Incas.
Nous avons ici un petit fragment du système d'évacuation des eaux de Cusicancha. Il faut imaginer qu'on retrouvait ce système dans toute la ville qui abritait 150 000 personnes. Je ne sais pas comment ils ont fait sans la technologie moderne. Ça paraît incroyable. Mais c'est la preuve de la capacité des Incas à maîtriser leur environnement.
La maçonnerie est tout aussi exceptionnelle. Les murs dénotent une grande maîtrise de l'appareillage à joints vifs. Les blocs sont ajustés avec une précision extraordinaire, sans aucun liant. La cohésion est si parfaite qu'une lame ne passerait pas entre les pierres. Les Incas ont imposé cette architecture monumentale à travers l'Empire. Entre les mains des Incas, l'urbanisme devient une arme politique. À Cusco, les dignitaires habitent les quartiers en hauteur. Le petit peuple vit en contrebas. Quand les Incas conquièrent une ville, ils réservent les secteurs prestigieux à l'élite. Cette distinction spatiale apparaît dans tout l'Empire. La hiérarchie sociale est inscrite dans la structure des villes. Les sujets l'ont constamment sous les yeux. Les Incas ont ainsi imposé leur culture à des millions de personnes. Mais le pouvoir isole. À mesure que l'Empire grandit, Cusco et son élite dirigeante risquent de perdre le contact avec le peuple. Pour l'éviter, la capitale dorée doit conserver une dimension symbolique. Il faut montrer que Cusco est bien le nombril du monde. Mais les Incas n'exigeaient pas seulement l'unité politique. Ils demandaient aussi qu'on partage leur foi. Comment ont-ils persuadé leurs sujets de la supériorité de leur religion?
Dans les Andes, il n'existe pas de système de croyance unifié, ni de mythes, ni même de récits des origines partagées par tous. L'expression de la religion est très différente d'une région à l'autre.
D'autres civilisations péruviennes, comme les bâtisseurs des pyramides de Caral, ou ceux qui ont dessiné les lignes de Nazca, ont inscrit leur foi dans le paysage. Pour Luis Jaime Castillo, les Incas ont fait de même. Mais ils ont choisi un terrain d'expression différent, la ville elle-même. Selon des chroniques espagnoles du XVIe siècle, Cusco avait la forme d'un puma. Pour les Incas, c'était un animal sacré. Ils admiraient cet élégant félin pour sa force et sa ruse.
Le puma est l'un des éléments les plus importants de la cosmologie inca.
Selon la légende, le roi Pachacutec aurait fait dévier deux cours d'eau et déplacer des milliers de tonnes de pierres pour que Cusco ressemble à un puma.
Les Incas voulaient rattacher leurs origines à cet animal puissant. Et c'est un message qu'ils répandaient sans doute à travers tout l'Empire.
Les Incas auraient ainsi modelé plusieurs villes d'après des animaux sacrés. C'était une façon d'imposer leur culte. D'autres cités auraient ainsi la forme d'un animal. Les Incas ont peut-être disséminé ces gigantesques symboles religieux partout dans l'Empire.
Les Incas ont façonné le terrain, les édifices et leurs villes, avec beaucoup de soin pour leur donner la forme d'animaux. Le message est clair. Ils avaient l'ambition de subsister aussi longtemps que les monuments qu'ils avaient bâtis. Tout le monde veut bâtir un empire qui dure des millénaires.
Au fil des décennies, les Incas conquièrent de vastes territoires. Pour cimenter leur empire, ils organisent de grandes cérémonies. Et ils imposent leur symbolique religieuse partout. Au début du XVIe siècle, Cusco concentre un immense pouvoir. Ses travaux et ses fêtes demandent d'immenses ressources. La clé de la puissance inca, c'est le contrôle exercé sur la nourriture. Cette culture ne connaît pas la monnaie. Être riche, c'est alors posséder de grandes quantités de céréales et d'autres plantes nourricières.
Quand on contrôle la production agricole à grande échelle, comme le faisaient les Incas, on dispose d'un immense pouvoir.
Là encore, les Incas témoignent d'un degré d'organisation supérieur. À Incahuasi, on a découvert des bâtiments d'une surface totale de 20 000 mètres carrés. Il s'agit manifestement d'entrepôts. On pouvait y conserver des milliers de tonnes de produits agricoles.
Pour une société qui ne connaissait pas l'argent, comme les Incas, la nourriture était certainement la base de la structure économique. Ces entrepôts sont un peu comme les banques d'aujourd'hui.
La taille de ce complexe est surprenante. Ces entrepôts sont les plus grands jamais retrouvés sur la côte péruvienne. Ils contenaient bien plus de nourriture qu'un contremaître inca aurait pu en produire seul. On a notamment retrouvé du maïs.
C'est la principale plante qui était stockée sur le site. Et on peut dire que l'Empire Inca a été bâti sur le maïs.
Les analyses montrent que ce maïs était cultivé dans les vallées environnantes. Il s'agissait sans doute d'un tribut payé par les populations soumises.
Les sujets donnaient 100% de leur production à l'État, qui en redistribuait ensuite une certaine proportion.
Le seul site d'Incahuasi permettait de stocker des milliers de tonnes de maïs. Et il existait des centaines d'entrepôts comme celui-ci à travers l'Empire. Les Incas ne possédaient pas de livres de comptes écrits. Comment pouvaient-ils s'assurer que chaque district avait payé sa part? Et comment géraient-ils le flux de ces immenses ressources? Dans ces entrepôts vieux de 5 siècles, sous les piments, les cacahuètes et les haricots noirs, les archéologues ont trouvé de curieux objets. Il s'agit de cordelettes enchevêtrées. Elles paraissent sans importance, et pourtant, ces arrangements de nœuds ne doivent rien au hasard. Les ficelles de couleur sont nouées selon un code bien précis. Elles sont la clé de la formidable administration inca. Ces étranges colliers sont ce qu'on appelle des quipus. Ces ficelles de fibres nouées servaient à noter des informations, y compris des nombres. Elles permettaient aussi de compter à la manière de nos calculatrices.
Les quipus sont des ensembles de cordelettes dont chaque nœud représente un chiffre. On peut déterminer le total en fonction du nombre de boucles du nœud.
Ces quipus permettaient sans doute de noter le montant du tribut payé par chaque secteur. Ce système était utilisé dans tout l'Empire.
Les quipus étaient des instruments très puissants. Ils permettaient aux Incas de tenir les comptes de la production au sein de l'Empire. C'était donc un outil de contrôle de la population.
Les quipus étaient l'arme fatale de l'administration Inca. Mais le système du tribut accentuait sans doute le ressentiment des peuples conquis.
Les gens devaient détester les administrateurs incas, car s'ils ne payaient pas, ils étaient punis, parfois même condamnés à mort.
Les méthodes incas étaient si impopulaires qu'elles ont provoqué des révoltes.
Quand vous avez un tel degré de mécontentement, l'émeute n'est jamais très loin. On a des preuves de révoltes en de nombreux endroits pendant la période inca. On sait que les rébellions étaient réprimées avec beaucoup de brutalité. On a même des récits de l'époque qui parlent de lacs devenus rouges à cause du sang des personnes tuées.
Les Incas semblent avoir semé eux-mêmes les graines de leur destruction. Ils donnent à leurs sujets trop de raisons de les haïr.